Eugénie Pradez, Zizine. Au lieu d'entrer dans la cure et d'appeler Zizine, comme c'était son habitude, le prêtre alla s'asseoir seul sur le banc de bois appuyé au mur de façade. De la poche intérieure de la soutane, qui pendait en plis vide autour de sa personne sèche, il tira avec précaution une large enveloppe, en sortit une feuille blanche, couverte d'une écriture anguleuse, ferme, très distincte, la parcourut rapidement des yeux, puis il replia le papier et le remit à sa place, en soupirant. Cette fois encore, l'espérance de découvrir, entre les lignes, quelque chose de nouveau, d'extraire de ce document un adoucissement à son chagrin, d'y entrevoir une possibilité de contourner la pressante nécessité de rompre avec son passé, lui échappait. Qu'avait-il donc espéré ainsi contre toute espérance? Un miracle, n'est-ce pas? Le secours direct d'une intervention divine pour lui épargner, à lui, ministre du sacrifice, du dévouement, de l'abnégation, un déchirement personnel. N'avait-il pas lui-même sollicité ce déplacement? Pouvait-il décemment, dans les circonstances données, ne pas le solliciter? Lui était-il permis à présent de regimber, de se plaindre, de souffrir? Le soleil venait de quitter le jardinet, où, à force de soins, Zizine et lui avaient fait pousser dru, dans un pêle-mêle pittoresque de vie et de liberté, les légumes nécessaires à la cure et les fleurs vivaces que le bon Dieu tire du sein de la terre pour la joie des yeux. Une ombre lourde, jetée par les grands pans de rocs abruptes et dénudés, derrière lesquels le soleil se couchait, éteignait en courant le vert vif des prés, et déjà, des hauts sommets encore illuminés, une fraîcheur pénétrante descendait. Que de fois, assis à cette même place, le curé avait goûté, avec Zizine, la paix de cette heure silencieuse. Mais ce soir-là, autour de lui, la campagne, muette et vide, semblait exprimer quelque chose de méchant, qui bourdonnait dans l'air à ses oreilles et le pénétrait jusqu'au cœur. Il joignit sur ses genoux ses mains sèches, nerveuses, amaigries, et il murmura « Après 20 ans, en être là !» Et pour la 100e fois, depuis qu'entre lui et ses ouailles avait éclaté le différend qui les séparait, l'angoisse d'une mission manquée étreignit sa conscience. Partageant le village populeux par moitié, un torrent, presque à sec à cette époque de l'année, traversait la vallée, et pendant les 20 années qu'avait duré son ministère, le prêtre avait journellement franchi le pont qui reliait l'une à l'autre les deux portions de sa paroisse, sans faire entre une rive et l'autre de différence dans son cœur. Toutes ses ouailles, celles qui se trouvaient avec lui groupées autour de la vieille église, et les autres, vivant de l'autre côté de l'eau, avaient toujours été, à ses yeux, membres du même troupeau confié à sa garde. Il y avait juste 1 an que la vieille église, où, si longtemps il avait baptisé les enfants, marié la jeunesse et béni la mort, avait pour la première fois donné quelques signes inquiétants de vétusté. Examiné avec soin, l'ancien édifice lézardé, lépreux, crevassé, branlant sur sa base, jugé très dangereux, avait été condamné à un abandon immédiat. Seul, au milieu de la joie bête, tapageuse et bavarde qui fêta la nouvelle dans le pays, le prêtre avait pressenti les conséquences lointaines de ce fait inattendu. Il n'en douta pas une seconde. L'église neuve ne s'élèverait pas du côté de l'eau, où, autour de la cure, se serrait la partie la plus modeste de sa paroisse. De l'autre côté, la mairie dressait sa façade neuve et blanche, et entourant de près cette bâtisse importante, la richesse relative du pays formait, au milieu de la misère laborieuse des autres, un noyau d'habitants plus influents, jaloux d'avantages et de primauté. Le prêtre avait d'avance et facilement accepté pour lui-même le sacrifice. Quand il le faudrait, il abandonnerait le jardinet fleuri, le voisinage de l'enclos où dormaient les morts et le groupe d'humbles vivants, pour qui la possession de l'église et la présence du curé avaient été jusque-là un privilège, en apparence inaliénable. Poursuivre sur l'autre rive la maison du bon Dieu. En obéissant ainsi à un devoir précis de sa conscience, il n'avait cru léser la cause de qui que ce fût. Cependant, chose incompréhensible, lorsqu'après beaucoup de pourparlers, ses prévisions furent justifiées, qu'il fallut annoncer du haut de la chaire à l'auditoire frémissant sous ses yeux de passions contradictoires le transfert de l'église, il eut, en prononçant l'arrêt définitif, la subite, l'étrange sensation de pactiser secrètement avec le pouvoir, d'être, pour beaucoup des pauvres gens qui l'écoutaient là, mornes et révoltés, une façon de déserteur. D'où lui venait cette brusque et singulière impression? À partir de cette heure où ses devoirs envers Dieu et envers les hommes s'étaient violemment scindés devant sa conscience, une torturante perplexité s'était emparée de son esprit. Au sortir de l'église, lorsque l'orage éclata, haineux, violent, brutal, que, sans souci de sa présence, les deux parties se déchirèrent de reproches, d'invectives, d'insultes, ses paroles de pacification furent emportées par le vent, effacées, anéanties, comme si ce quelque chose d'intime, de profond, d'incompréhensible qui avait saisi son âme, eût immédiatement neutralisé toute son influence. Depuis lors, des deux côtés de l'eau, on s'écartait de lui avec la même défiance. Les uns ne trouvaient pas, dans son attitude inquiète, une sanction suffisante de leur triomphe. Les autres devinaient, au fond de son cœur, quelque chose de caché, de secret, une préférence inavouée qui le faisait agir, parler, le menait. À mesure que sa personne devenait ainsi suspecte, le prestige même des choses saintes, ce dépôt sacré dont il était le gardien respectueux et responsable, glissait de ses doigts. Laisser à un autre, libre d'attache sur ce sol où ses cheveux à lui avaient grisonné, presque blanchi, la mission d'apaiser la tourmente de haine qui avait sévi tout un an autour de lui sans qu'il pût rien pour la pacifier, était devenu un devoir inévitable, pressant. Mais au moment de briser le lien qu'il attachait à ce petit coin de terre où il avait cru laisser ses os, il lui fallait faire un effort violent, sans précédent dans son humble carrière d'abnégation. Il n'en avait pressenti à fond ni la difficulté, ni l'amertume. Dans l'intérieur de la maison, on entendait aller et venir. Le pas inégal de Thérèse résonnait incessamment sur les dalles de la cuisine. Plusieurs fois déjà, la vieille femme, passant par la fenêtre sa tête grise, touffue et frisottante, s'était attardée à considérer le prêtre attentivement. Autour des membres anguleux, la soutane qui l'an passé enveloppait le corps sain, robuste, bien musclé, flottait emplie flasque et abandonnée. Cette maigreur effrayante la frappait davantage ce soir-là, et l'affaissement extraordinaire où le prêtre semblait plonger finit par l'inquiéter. Pour le forcer à secouer son immobilité, à la fin elle l'interpella. « Est-ce que vous m'avez appelé, monsieur le curé ?»« Non, Thérèse. »« Vous n'avez besoin de rien ?»« De rien. » Après un court silence, il ajouta « De rien, merci, ma bonne Thérèse. » Il devinait confusément ce que ce souci de son bien-être cachait, à ce moment-là, de sollicitude inquiète et délicate. Thérèse prit ce qu'il fallait pour aller puiser l'eau à la fontaine, toujours jaillissante, de la cure. C'était un prétexte à sortir, et elle avait encore quelque chose à dire, mais cela l'embarrassait à formuler comme ça de loin. Elle descendit les 4 degrés de pierre, vint en clopinant jusqu'au banc où le prêtre était assis, et posant son seau à côté d'elle, elle dit C'est-il vrai, monsieur le curé, que vous quittez le pays ? Il la regarda très surpris. La nouvelle, qu'il se croyait seul à connaître, circulait donc déjà. Elle était parvenue à d'autres en même temps qu'à lui. Déjà, sans doute, l'annonce de son départ sonnait partout comme un chant de délivrance. Il soupira et dit « Dans 15 jours, j'aurai quitté ma paroisse. » Elle resta un moment saisie. Les mots ne lui venaient pas tels qu'elle les aurait voulus. « Partout où vous irez, » dit-elle enfin très bas, sans lever les yeux. « Moi aussi j'irai, monsieur le curé. »« Merci, » murmura-t-il. « Merci. » Et il fit un mouvement brusque, comme pour l'écarter de lui. À ce moment-là, l'offre spontanée de ce dévouement, au lieu de le réjouir, lui causait une insupportable souffrance. Thérèse reprit aussitôt son seau et s'en alla. Mais quand elle revint, courbée et boitant bas sous son fardeau, le prêtre la rappela. « Ainsi, dit-il d'une voix émue, tant que Dieu nous laissera la vie, nous ne nous séparerons pas. Merci, Thérèse. » La figure de la vieille femme s'irradia. Son pas devint plus léger, elle s'en alla plus alerte. Comme elle atteignait le seuil de la maison, le prêtre l'appela de nouveau. Le point douloureux, effleuré dans son cœur par l'expression d'un humble et fidèle attachement, réclamait à son tour sa part d'attention. Et il demanda « Est-ce que Zizine, elle aussi… » Mais il s'interrompit et changea brusquement sa question. C'était de la bouche de Zizine, elle-même, qu'il voulait apprendre ce qu'elle savait des changements menaçant l'avenir. Et il dit simplement « Zizine, n'est-elle pas là ?» Au même instant, la jeune fille accourait. Étonnée de n'avoir pas été ailée comme à l'ordinaire, une nuance d'inquiétude animait sa figure fraîche, fine, transparente, dont un parfum de rose sauvage, de jeunesse libre et heureuse, s'exhalait. Droite et souple, elle se tint debout devant le prêtre, sans penser à s'asseoir, comme si une préoccupation étrangère aux habitudes ordinaires de la vie bouleversait la routine de tous les jours. Le prêtre la considéra un moment en silence. S'était-il donc trompé ? Dieu, en reprenant à ce petit être irresponsable, au moment où il posait un pied incertain sur le seuil de la vie, tout secours humain, ne le lui avait-il pas donné directement de la main à la main ? C'était ainsi qu'il avait compris la volonté divine, le jour où il avait enlevé l'enfant à son foyer désert pour l'apporter à la cure. Et à présent, ce don allait lui être redemandé, repris violemment. « Zizine, interrogea-t-il en scrutant le visage rosé qu'une angoisse mystérieuse changeait. « Tu sais… »« Ah !» murmura-t-elle. « C'est donc vrai ?» Et sans reprendre haleine, elle ajouta tout bas « Et où nous allons ? Est-ce loin d'ici, monsieur le curé ?» En même temps, elle abaissa brusquement ses paupières, comme si elle craignait ce que ses yeux pourraient, à son insu, dire, trahir. « Pas toi, » dit-il sourdement en faisant un geste pour éloigner de lui cette question. « Pas toi. »« Si fait !» dit-elle d'une voix étouffée. « Partout où vous irez, monsieur le curé, moi aussi j'irai. » Tout à l'heure, avec l'élan du sacrifice volontaire, Thérèse avait prononcé exactement les mêmes paroles. Seulement pour elle, l'effort contenait une part de joie presque suffisante à le compenser. En acceptant l'exil, Thérèse restait fidèle au passé. Zizine s'arrachait à l'avenir. Elle donnait sa vie même. « Non, » dit le prêtre fermement, en étendant sa main sèche vers l'église neuve, presque achevée, encore illuminée des feux du couchant. « Ta place, à toi, est là. » Zizine jeta un regard rapide du côté où brillait le soleil, où la lumière, la chaleur, la vie l'attendaient, l'attiraient violemment. Elle hésita l'espace d'une seconde, puis elle baissa les yeux et resta muette. L'obéissance passive offerte à sa volonté la tentait trop fortement. Il fixa sur elle un long regard profond, douloureux, qui semblait ne pas la voir. Puis il lui dit, presque brusquement, « Laisse-moi, va, va !» À ce moment même, à travers la déchirure qui séparait sous ses yeux le passé de l'avenir, il venait d'entrevoir une effrayante réalité. En même temps, ses scrupules, ses doutes, ses incertitudes prenaient devant sa conscience troublée une netteté inattendue. Le déficit de son ministère se dressait, tout à coup, devant lui, comme une faute personnelle, une infidèle compréhension de sa mission, une désobéissance volontaire et tenace. Il voulait être seul pour scruter cette douloureuse impression, lui arracher jusqu'au fond toute la vérité. Peu à peu, à mesure que, du trouble de son esprit, cette vérité se dégageait plus claire, chose étrange, il la reconnaissait. Oui, accusatrice et méconnue, elle était là depuis longtemps, à cette même place de sa conscience. Pour ne pas la voir, il avait obstinément détourné les yeux, refusant à Dieu le sacrifice qui lui était demandé. À présent, ce sacrifice lui était imposé, et le passé s'éclairait d'une lumière aveuglante. Fils de l'Église, quel droit avait-il eu de sentir frémir en lui des entrailles de chair? En lui donnant cet enfant, Dieu lui avait donné un devoir à remplir. Il avait fait de ce devoir une jouissance personnelle, le pivot de ses pensées, le tout de sa vie. Le désir de suivre Zizine de l'autre côté de l'eau, où son rôle de femme et de mère l'attendait, avait sournoisement influencé son esprit, au point de rendre ses allures, ses propos, ses ordres même, suspects et impuissants. C'était de là, oui, c'était de là que venait la déroute de son apostolat. Dieu le frappait là où il avait failli. Il lui reprenait l'idole dressée entre le prêtre et sa mission. Désormais, la liberté même d'obéir ou de désobéir lui était ôtée. Lorsque le prêtre rentra dans la cure ce soir-là, il faisait nuit depuis longtemps. Thérèse, inquiète, le guettait sur le pas de sa porte, et quand il passa près d'elle, elle jeta sur le visage de son maître la lumière crue de sa lampe. « Vous voilà blanc comme un mort » murmura-t-elle, mécontente. « Vous avez eu froid, monsieur le curé !» Chapitre 2 15 jours plus tard, sur la route interminable qui la menait à l'horizon, Thérèse marchait courageusement. Malgré sa démarche heurtée, elle était toujours en avant, et de la voix, elle stimulait sans cesse son compagnon. « Marchons, monsieur le curé, marchons !» Comme s'il eût été à présent sa conquête, sa propriété, son bien, et qu'au fond du cœur, cette pensée effaça tous les sacrifices, elle l'entraînait, pressée de l'arracher au passé. De temps en temps, pour calmer cette hâte fébrile qui le talonnait, le prêtre murmurait « Oui, Thérèse, oui, marchons !» Mais comme la route faisait un brusque coude derrière lequel le village allait disparaître, il se retourna tout à coup et s'arrêta. Au fond de l'étroite vallée tout inondée de soleil, le village dormait dans un bain de lumière. On entendait, au loin, mugir les troupeaux, et l'horloge, qui depuis 20 ans comptait une à une toutes les heures de la vie du prêtre, venait de frapper l'air 3 fois de sa voix grêle et familière. À ce son, déjà lointain, un sentiment d'isolement, d'abandon, d'oubli traversa l'âme du voyageur. L'échec de son ministère, ce long labeur jeté au vent, l'oppressa rapidement. Mais la pensée et l'image de Zizine se dégagèrent aussitôt de ses fugitives préoccupations, l'absorbèrent seules, l'étreignirent à l'étouffer. C'était d'elle qu'était venue la paralysie de son âme. Et voilà que, malgré cette conviction, la pensée de fuir ce dangereux esclavage lui était intolérable. En ce moment même, des nombreuses années écoulées dans l'ignorance de son infidélité, une seule minute se détachait, effaçait tout le reste, s'enfonçait dans son cœur comme un dard. Zizine ne venait-elle pas d'insister pour l'accompagner? Cette fois, dans le ton décidé, vibrant, assourdi, lui répétant à satiété cette phrase que Thérèse et elle semblaient avoir méditée ensemble. « Partout où vous irez, monsieur le curé, moi aussi j'irai. » Il avait senti passer l'assurance d'un parti pris, d'un fait résolu, d'un dévouement voulu, arrêté, désiré. Elle l'avait donc devancé sur la route difficile. Son sacrifice, à elle, était fait, et elle le lui avait apporté joyeusement, tandis que lui, la mortelle tentation de la prendre, de la garder tout entière, de revivre ailleurs le passé, venait de l'arrêter brusquement à ce tournant du chemin. Pourquoi avait-il repoussé cette abnégation venue à lui avec l'insistance d'une volonté sûre d'elle-même? Pourquoi cet inutile déchirement? Dieu, à cette dernière minute, replaçait sous ses pas le même effort, le même devoir. La libre option entre l'obéissance ou la désobéissance lui était encore une fois rendue. Rien d'extérieur à sa volonté ne forçait cette fois son action. Il fallait choisir librement. Obéir à cette loi intime et mystérieuse qui existait entre Dieu et lui et ordonnait le sacrifice, ou suivre l'impulsion de son cœur d'homme, qu'aucune prescription extérieure ne condamnait. Longtemps il resta absorbé en lui-même, regardant distraitement, là-bas, la vie se poursuivre sans un heurt, sans une halte, sans une secousse. Ses traits amincis, affinés sous l'effort inaccoutumé de sa pensée. Machinalement, les deux mains décharnées s'étaient cherchées et elles s'étaient jointes, tandis que dans la vallée, lentement, les ombres s'allongeaient. Intimidée, à côté de lui, Thérèse restait muette. Elle devinait, entre elle et son maître, un mystère insaisissable, que l'éloquence de son humble affection n'atteindrait pas, et elle fixait sur lui ses yeux bons, anxieux et chagrins. Comme si la persistance de ce regard eût enfin effleuré la sensibilité du prêtre, tout à coup il se retourna lentement vers elle. Il regarda un moment en silence cette épave du passé, cet exilé volontaire qui l'attendait patiemment. Puis un pâle sourire fit effort pour entr'ouvrir ses lèvres serrées, et il articula d'une voix sourde « Marchons, ma bonne Thérèse, marchons !» Et sans se retourner désormais, il s'en alla vers sa vie nouvelle. Thank you.